أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، donc un nouveau cours sur notre noble matière, le tawhid. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous sommes toujours dans l'étude de notre épître, Al-Wajibat, Al-Mutahattimat, comme vous le savez, les obligations qui incombent à tout musulman et musulmane. Quelles obligations? Les obligations des fondements de la foi, le tawhid, l'unicité. On a vu dans le début de cet épître on a commencé par la basmala, et ce n'est pas pour rien que les grands savants commencent par la basmala, c'est-à-dire Bismillahirrahmanirrahim, dans leurs ouvrages, car le Coran lui-même commence par la basmala. Et il y a une faïda à propos de ça, c'est que dans la basmala, il y a le tawhid. Dans la basmala, il y a l'unicité d'Allah Ta'ala. Donc, on constate qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commencé le Qur'an par le tawhid. Et on constatera une fois de plus qu'Allah Ta'ala nous indique l'importance du tawhid. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a, ordonné au messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, dans le Coran, d'apprendre le tawhid en première position. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Et sache qu'il n'y a de divinité à part Allah subhanahu wa ta'ala. En vérité, bien entendu. Donc ça, c'était dans notre petit modeste récapitulatif, quelques fawaïd concernant le basmala. Alors également, ce qu'on peut rajouter, ce qui n'est pas répandu dans les cours de tawhid, ce qu'on peut ajouter comme fawaïd concernant le basmala, c'est qu'il y a des savants qui voient que c'est une condition d'acceptation de certaines adorations à la basmala. Comme certains voient l'obligation du basmala avant l'wudu, avant les ablutions dans la prière. Donc on voit l'importance du basmala, hein, déjà en rapport avec le tawhid. Ensuite, on a vu, l'auteur, dans le début de notre épître, a commencé par les trois fondements, nous mentionner, nous donner directement, dès le début, des notions concernant les trois fondements. Qu'est-ce que les trois fondements? Comme nous le dit l'auteur, les trois fondements, c'est la connaissance du serviteur de son Seigneur. Alors, en point principal, connaissance du serviteur de son Seigneur en tant qu'adoré. Point principal, ça veut dire dans notre enseignement le point à retenir. Mais on sait très bien que le Seigneur, c'est la Seigneurie, la divinité et les noms et attributs. Deuxième fondement, connaître la religion de l'islam avec ses preuves. Connaître la religion de l'islam avec ses preuves. Ça, c'est le deuxième fondement. On avait expliqué qu'il y a un fossé énorme entre le fait de connaître l'islam avec ses preuves et le fait de ne pas connaître l'islam avec les preuves. Parce que sans les preuves, on peut adhérer à un islam, comme vous le savez, et finir en enfer. Kulluha finnar illa wahida. Tout en enfer sauf un groupe. Comme nous l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa sataftariqu hadhihi al-umma aw ummati ala 73 firqa. Ma communauté va se diviser en 73 groupes. Une wa sataf Tout en enfer, sauf une, illa wahida. Donc on sait que si on n'est pas dans l'islam authentique, le prophète a expliqué où on risque de finir. Et pourquoi on dira, ça c'est une faïda pour vous également, pourquoi on dira, attention, la majorité des gens n'ont pas bien compris ce hadith. Pourquoi on dira on risque de finir en enfer et on ne dira pas celui qui fait partie des autres que le groupe sauvé, il ira en enfer? Parce que Cheikh Abdelazak al-Badr, en expliquant ce hadith, a dit que ce hadith, c'est une base, c'est en général. C'est en général. Autre que le groupe sauvé, c'est l'enfer. Mais c'est en général. Après, c'est du cas par cas. Après, c'est du cas par cas. Ce n'est pas toute personne qui est dans autre que le groupe des gens de la Sunna, qui est parce que voilà, il n'a rien appris d'autre dans sa vie, il connaît que ça, il connaît pas. Il n'est pas contre la sunna, il croit que l'islam c'est ça, c'est un exemple. Hein. Lui, c'est Allah Ta'ala qui décidera de son sort. Donc il faut faire attention, et ça rentre dans notre cours. Hein. Ça, c'est une faïda pour notre cours ici, les jugements, les terminologies, juger les autres, et on va y venir. C'est que, attention, hein. Attention, on peut juger quelqu'un en pensant qu'il va aller en disant toi tu iras en enfer, t'es un égaré, égareur, ceci, cela, et qu'en fin de compte c'est le contraire. Nas'alallah, qu'Allah nous en préserve, mais qu'en fin de compte c'est le contraire. C'est nous qui sommes plus susceptibles d'aller en enfer que cette personne. Parce que nous dit Allah Ta'ala dans le Qur'an? Alors, je ne vous dis pas ça pour devenir laxiste. Comme vous avez pu le constater, nous, on n'est pas laxiste sur ces choses-là. Mais on dira plutôt que nous, on est juste, Inch'Allah. Il y a une différence entre juste et laxiste. Et ça, c'est une caractéristique des gens de l'innovation, comme les haddadis, les gens qui sont trop durs, que si vous êtes juste et que eux, ils sont durs, ils vont traduire leur dureté, ils vont traduire votre justesse par rapport à leur dureté, ils vont appeler ça du tamyi', d'un genre de laxisme. Ouais, lui, ils sont toi, tu es fatigué dans le manhaj. Mais en réalité, non. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Cheikh Astaghfirullah, hein, c'est une parabole. Ça veut dire que Cheikh Mohsen Abed, il est fatigué. Cheikh Abdelazak, il est fatigué. Cheikh Al-Fawzan, il est fatigué. Cheikh Mohamed Bezmoul, ils sont fatigués. Cheikh Abdelaziz Al-Cheikh, ils sont fatigués. Alors, ça veut dire ça. Alors qu'ils sont justes, ils sont dans le juste milieu. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Voilà ce qu'Allah Ta'ala ne pardonne pas. Si on meurt dessus, voilà ce qu'Allah Ta'ala, il a dit lui-même, Jalla wa Ala, qu'il ne pardonne pas, le polythéisme. À part ça, il pardonne à qui il veut. Donc toi, qui es-tu? Toi, qui es-tu? Ouais, lui, l'innovateur, ou lui, le hizbi, il va en enfer, ou lui, le... Qui es-tu? Allah Ta'ala, il dit, pardonne, et toi, tu t'avances pour dire que Allah, il va pas lui pardonner. Bon courage. On n'aimerait pas avoir ce dossier, ce genre de dossier, le jour de la résurrection. Qui de sensé, qui a une raison, voudrait avoir à rendre des comptes sur ça le jour de la résurrection? C'est pour ça qu'il y a des gens, ils sont vraiment partis trop loin. Alors, connaître son Seigneur, les trois fondements, connaître sa religion. Donc on parlait de dalil, el-adilla, l'islam avec les preuves. Alors, vous savez qu'il y a des savants qui disent dans leur explication des trois fondements que celui qui connaît sa religion, l'islam avec les preuves, il a plus de chances dans la tombe d'être raffermi, de bien répondre, que celui qui connaît comme ça, en général, vaguement, il copie les autres, ce qu'il a entendu. Non, celui qui étudie l'islam avec ses preuves, en détail et tout, lui, il a plus de chances de bien répondre dans la tombe. Et troisième fondement, la connaissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed, bien entendu. Hein. On a parlé de ça, on avait donné également la définition de l'islam. On avait donné la définition de l'islam, qui est très importante. Donc en point principal, on avait dit que la définition de l'islam, elle revenait au tawhid. Hein. La définition de l'islam, on avait dit qu'elle revenait au tawhid. Puisque la définition de l'islam, c'est Al-istislam lillahi bit-tawhid wa l'inqiyad lahu bit-ta'a wa al-bara'atu min ash-shirki wa ahli. C'est l'unicité, l'istislam, la soumission dans l'unicité à Allah subhanahu wa ta'ala. On avait parlé également, ensuite, on avait étudié dans ce petit épître le chapitre qui suit les conditions de la ilaha illallah. Donc, on les avait mentionnés avec leur contraire. Et ensuite, on avait pris chaque condition avec l'auteur et il nous avait mentionné les preuves. L'auteur nous avait mentionné les preuves de chaque condition de la ilaha illallah. Donc, on les avait vues une par une. Donc, comme vous avez pu le constater, on avance doucement mais sûrement. Ensuite, dans notre épître, Al-Wajibat Al-Mutahattimat, tout récemment, on n'a même pas encore commencé, on est dans une préface très importante, comme vous pouvez le constater. Le chapitre qui suit sont les actes annulatoires de l'islam. Les actes annulatoires de l'islam. Voilà. Donc, nous sommes dans une préface concernant une introduction, hein, concernant le fait d'attribuer des terminologies, en gros, de juger les autres. Et à propos de cela, le fait de juger les autres, nous aimerions vous mentionner deux points. Deux points. Le premier point, c'est la parole de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Et le deuxième point, c'est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on va vous citer les deux paroles, et à partir de ces paroles, on va essayer de développer un petit peu. Ne vous inquiétez pas, on est pratiquement, on entre dans les 10 actes annulatoires. On a pratiquement terminé. On a juste à mentionner des conditions pour rendre mécréant et des empêchements qui nous empêchent de rendre mécréant n'importe qui comme ci, comme ça. Mais avant, on aimerait bien sensibiliser, bien que je pense que ça y est, les élèves ont compris, mais encore et encore, sensibiliser, vous apporter des fawaïd de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou la sunna des khulafa ar-rachidin, les califes bien guidés, qui ont la même sunna que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Leur sunna, afwan, c'est la sunna du prophète, alayhi salatu wa sallam. Cette première parole de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qui nous dit: Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Donc, traduction rapprochée qui signifie fais les comptes pour toi-même, hein, avant qu'on les fasse pour toi. Al-Hassan, donc Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, un de nos grands imams parmi les tabi'in, qui est une référence chez les gens de la Sunna, a dit, c'est-à-dire que le croyant, il a une sorte d'observation, comme de combat, d'observation, hein, de dominance envers lui-même, son âme, son nefs. C'est-à-dire qu'il doit faire les comptes. Les comptes pour lui-même. Inna al-mu'min, parce que le croyant, il se base sur le kitab wa sunna. Ce qui lui permet dans le Coran de distinguer, ce qui va lui permettre dans le Coran de distinguer ceux qui se sont égarés et ceux qui mènent à l'égarement, les caractéristiques, etc. Donc ça va l'amener dans une situation à distinguer entre lui et ces gens-là. Ça, c'est pour les gens qui réfléchissent. Alors regardez, hein, là c'est une parabole. Là c'est une parabole, on en a parlé dans les cours sur le jeûne. Al-muhasaba, on nous dit le sens de l'muhasaba, c'est-à-dire muhasaba, c'est comme faire les comptes pour toi-même en fait. C'est que tu dois regarder dans ton capital. C'est-à-dire dans ton profit. Et tu dois regarder dans ce que tu as perdu. Pour que tu sois capable de distinguer entre ce que tu as gagné, ce que tu as perdu, ce que tu as en plus et ce que tu as en moins. On nous dit le capital dans la religion, ton capital dans la religion. J'espère que tout le monde a compris le terme capital. Hein, quand tu as une société, il y a un capital. Capital de 1 million d'euros, capital. Toi, c'est quoi ton capital? En hasanet. Tu dois tout le temps chercher. Qu'est-ce que j'ai. Tu dois faire les comptes. Hein, pour que tu sois capable de distinguer, lorsque tu fais les comptes, qu'est-ce que j'ai en plus, qu'est-ce que j'ai en moins. Oh là là, j'ai fait trop de bêtises. Oh là là, non, ça va, j'ai. Ça va, aujourd'hui, j'ai fait des sadaqats, j'ai fait du khair, j'ai fait talab al-ilm, j'ai fait. Etc. C'est un exemple. Hein. Parce qu'ici, on va nous donner un petit peu de détails concernant le capital dans la religion, ce sont les obligatoires. C'est-à-dire les prescriptions d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est également nawafil wal-fada'il. Les nawafil, c'est tout ce qui est surérogatoire. Également tous les mérites. Ça, c'est tout ce qui est gagnant, ton capital, lorsque tu fais les comptes. C'est ça que tu dois compter. Est-ce que je fais toutes mes obligations? Est-ce que je fais des nawafil? Est-ce que je fais des choses en plus? Qu'est-ce que je fais des sunan, pluriel de sunna, hein? Et la perdition. Lorsque je fais les comptes, ce que j'ai perdu, c'est quoi? Les points perdus. C'est quoi? Ce sont les, on nous dit, les désobéissances. Alors, les désobéissances, on doit d'abord les assimiler aux prescriptions obligatoires. C'est-à-dire, ouais, dans quoi j'ai désobéi? Dans quoi je n'ai pas rempli l'obligation? Parce que si on fait, on désobéit et on est laxiste, si on ne fait pas, si on fait les comptes, on va arriver au taouba, on va arriver à quoi? Au repentir. On va arriver au repentir. Si une personne, chaque jour, elle fait les comptes pour elle-même. Elle va, lorsqu'elle va se rendre compte qu'elle a fait des désobéissances, etc., tout ce qui tourne autour, des choses des fois un peu plus graves, elle va se diriger vers le repentir. Alors on nous dit ici, si tu fais les comptes, si tu fais les comptes, une personne qui fait les comptes et qui a 60 ans, c'est-à-dire chaque jour pendant 60 années, elle fait les comptes. Elle arrivera, on nous dit ici, hein, فَإِذَا هِيَ أَحَدْ وَعِشْرُونَ, elle arrivera à 21 000 jours. Et 21 500 jours, et elle se dit, si je rencontre les anges, si je rencontre les anges de la mort avec ces 21 500 péchés, désobéissance. Alors imaginez-vous un péché par jour, hein, pendant 21 500 jours. Alors imaginez-vous si chaque jour j'ai fait 10 000 désobéissances, 10 000 péchés. Là, on parle d'une personne sur 60 ans, 21 500 jours, elle faisait pour chaque jour un péché. Imaginez-vous si une personne, pendant ses 60 ans, elle a fait 10 000 péchés sur une journée. 10 000 fois 60 ans. On nous dit, فإذا هو ميت فسمعه قائلا يقول يا لها ركض إلى فردوس الأعلى فهكذا ينبغي للعبد أن يحاسب نفسه على الأنفاس. Donc c'est de cette manière, comment la personne elle va pouvoir aller au paradis avec tout ça? C'est de cette manière que la personne, elle doit faire les comptes pour elle-même. Les péchés, par exemple, du cœur, les péchés avec les membres, chaque heure. On nous donne un exemple ici. Si une personne, elle jette une petite pierre dans sa maison, vous savez, une petite pierre, un petit caillou, à chaque fois qu'il fait un péché, au bout d'un minimum de temps, on nous dit ici, on nous dit au bout d'un minimum de temps, la maison, elle sera remplie. Au bout d'un certain temps, la maison sera rempli. Donc on nous dit attention, attention, ne néglige rien, ne néglige rien, ne serait-ce que, et ça c'est rapporté dans les textes, hein, ne serait-ce qu'un atome de bien, ne le néglige pas. Ne désespère pas également, sache que le repentir est ouvert. Et médite sur l'observation, c'est-à-dire fais les comptes pour toi-même, fais les comptes. Et à ce propos, moi je suis juste quelqu'un qui a une cause et qui vous fait le rappel. Donc je vais juste vous rappeler ce que le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, nous a rappelé, c'est que, et pardon, ce n'est pas le prophète uniquement, mais c'est d'abord Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a enseigné cela. Et si, inshallah ou ta'ala, vous voulez être gagnant dans vos comptes, il y a une technique. Il n'y a pas qu'une technique, mais il y a déjà une technique. Cette technique, c'est à chaque fois que tu fais une mauvaise action, fais-la suivre par une bonne action. À chaque fois que tu sais que tu as fait quelque chose de pas bien, ça peut arriver à tout le monde, hein. C'est Allah qui nous dit, tous les êtres humains, l'être humain est faible et tous les êtres humains font des erreurs et des péchés, et les meilleurs des pécheurs, ce sont ceux qui se repentent. Donc si tu veux essayer quand même de faire la balance, de ne pas te retrouver avec une négligence, et le jour de la résurrection, tu as des montagnes et des montagnes. Fais suivre, lorsque tu sais que tu as fait quelque chose de pas bien, fais-le suivre par un bien. Tu as fait une désobéissance, tu as fait une injustice, tu as fait. Chacun, il sait ce qu'il fait. Tout de suite, n'attends pas, ne laisse pas le shaitan te dire, ouais, après, plus tard, plus tard. Fais directement une sadaqa. Je sais pas, ramasse un escargot et mets-le dans un endroit dehors, ramasse un escargot, mets-le dans un endroit où il va pas se faire écraser. Aide une vieille à traverser, aide un vieux aveugle à traverser. Apprends un hadith et avec son explication et mets-le dans un groupe. Mais attention, chose très importante, chose très importante, chose très importante. Tout ça sera valable que si tu as fait la bonne intention. Fais l'intention de le faire pour Allah pour être pardonné de ce que tu viens de faire. Voilà comment une cause pour être gagnant. C'est comme si en fait,
Petite parabole, hein. À chaque fois que tu perds un petit peu d'argent, eh ben tu en récupères d'un autre côté. Ça fait quand même la balance. Tu perds 10 euros, t'en récupères 15. Tu perds 5 euros aujourd'hui, récupères-en 50. Parce que avec les hasanettes, c'est multiplié. Allahu Ta'ala, il est tellement juste que regardez, vous n'êtes même pas perdant en faisant ça. Pourquoi? Parce que les péchés, t'auras un péché quand t'as fait une mauvaise action ou un péché. Les bonnes actions, vous avez bien vu que c'est multiplié par 10 ou par 700. Là. Donc c'est comme si, c'est une parabole, attention. Hein. C'est comme si aujourd'hui, j'ai fait une mauvaise action, j'ai perdu 5 euros. Et j'ai une solution pour en récupérer, multiplié par 10, 50 euros. Nous, on ne sait pas ce qui est bien pour nous. On ne sait pas. Il se peut que vous détestez quelque chose, mais c'est un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez quelque chose, c'est un mal pour vous. Nous, on ne sait pas. Mais peut-être que tu as fait un péché. Alors, bien sûr, faut demander pardon. Hein. Faut faire le taouba. C'est ça qui efface le péché. Mais faites suivre les mauvaises actions par les bonnes actions. Tamhouha. Dans le hadith, il est dit, ça va les... Comme ça éteint le feu, ça va les éteindre. Les péchés et les mauvaises actions, comme ça éteint le feu. Donc voilà l'importance. On fait quelque chose de pas bien, hop. Et je vais vous donner même quelque chose qui est gratuit. Parce que des fois, ben, on n'a pas forcément de l'argent pour faire des sadaqat, etc. Mais la religion, elle est tellement juste que t'as pas besoin forcément d'avoir de l'argent pour faire du khair. Parmi les meilleures actions où Allah Ta'ala il donne vraiment du mérite à la personne, c'est les liens de parenté. T'as fait un péché ou quoi? Hop, on téléphone aux parents. Salam alaikum, comment allez-vous? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Hop, tu fais la niya. J'ai ça à me faire pardonner. Il faut que je trouve une. Faut que je trouve une manière, faut que je sois pardonné, absolument. Tu fais taouba, hop, t'appelles ta maman. Salam alaikum, ummi, comment ça va? Est-ce que t'as besoin de quelque chose? Tout va bien? Si elle te dit non, j'ai besoin de rien, tu dis d'accord. Tu te présentes devant chez elle avec un pack d'eau, par exemple. L'eau, c'est la meilleure sadaqa. Tu ramènes des packs d'eau à tes parents. C'est un exemple hein, que je vous donne. Hein. Mais déjà, le coup de téléphone avec la bonne niya ou la risala, le SMS ou la visite, c'est déjà beaucoup. Donc voilà, ça, ce sont des petites techniques. Des petites techniques. On a déjà dit que c'était un commerce et un tijara. On l'a déjà dit. Et c'est Allah Ta'ala qui le dit dans le Coran. Alors, quand on va faire du commerce, au sens du vrai commerce hein, dans la dunya, on va chercher toutes les techniques, comment embellir, je vais faire un site internet, je vais faire des lives. Bon, moi, je ne connais pas, hein, je répète ce que j'entends autour de moi. Hein. Malgré que je suis dans le tijara, mais c'est pas trop moi qui gère ça. Je vais faire des lives, vous savez, comme ils font sur internet et ils présentent les produits. Je vais faire... On trouve des solutions, hein. Alors là, on n'a pas de mal à trouver des solutions. Je vais faire un compte, je sais pas, Twitter, Instagram, ou... Là, on trouve les solutions. Je vais embellir mon produit, je vais faire des nouveaux produits, etc. Là, on a les solutions. Mais quand il s'agit de la religion, creuse-toi les méninges. Creuse-toi les méninges. Subhanallah. Creuse-toi les méninges. Prends un rappel touchant d'une personne des gens de la Sunna, envoie-le à une personne que tu connais, qui voit que sa foi elle a baissé. Passe une journée avec ton frère ou ta sœur au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wallahu fi'aun al-'abd ma kana al-'abd fi'aun akhi » Allah est dans l'aide de son serviteur qui est dans l'aide de son frère. Passe une journée à réconforter ton frère, ta sœur, à... Si tu connais des gens qui sont pauvres, pendant le Ramadan, fais-leur des cadeaux, amène-leur à manger. Ça, c'est l'islam. L'islam, c'est pas de passer, d'être indifférent envers ton frère et ta sœur, de ne pas lui passer le salam, de les regarder de travers, de dire moi je suis au paradis et vous et tous les autres, il n'y a personne qui est au paradis, vous êtes des hizbis, vous êtes ceci, vous êtes cela. Eux, ils sont passés à côté d'un immense bien. En fait, ils n'ont pas compris l'islam. En fait, ils n'ont pas compris l'islam. Masakin, les pauvres, ils n'ont pas compris l'islam. Vous voyez que tout ce qu'on a étudié, si vous regardez tout ce qu'on a étudié depuis le début, vous avez compris que l'islam qu'on voit chez beaucoup de gens, c'est pas l'islam authentique, hein. Malgré qu'ils vont vous dire, moi je suis l'islam authentique, t'es même pas capable de dire salam wa alaykoum et de faire un sourire. Et toi tu me dis, je suis l'islam authentique. T'es même pas capable d'aider tes frères et tes sœurs. Et toi tu me dis, je suis l'islam authentique. Tu vas aider que les gens qui sont dans ta secte. Et t'appelles ça l'islam. Tu peux aider quelqu'un qui est égaré et être la cause qu'il va rentrer chez les gens de la sunna, le sais-tu ça? C'est pas en boycottant tout le monde. Vous savez, les règles du boycott. Les savants disent les règles dans les règles du boycott. La condition pour boycotter quelqu'un, c'est qu'il y ait un intérêt. Ça veut dire que ça va découler sur un bien de l'avoir boycotté. Mais s'il n'y a aucun intérêt, ça va être pire ou ça va rien rapporter. T'as pas le droit de boycotter. Tu boycottes pas. Et nous, on est là. Lui ceci, lui cela, elle ceci, elle cela, on fait des postes, lui ceci, lui cela. Et on revient à notre cours ici, on porte des jugements. Alors que pourquoi je vous ai mentionné cette parole à la base de Omar ibn Khattab? Pourquoi? Pourquoi? Alors on va poser la question. C'est un peu subtil, mais on va poser la question. On va poser la question. Pourquoi, quel est le rapport entre, quel est le rapport entre notre cours, ne pas porter des jugements hâtifs, ne pas porter des jugements non légiférés à tort sur les autres, et quel est le rapport entre ça, notre cours, et la parole de Omar ibn Khattab, juge-toi toi-même avant de juger les autres. C'est quoi le rapport? Alors pour vous aider un petit peu, je vais mettre le chat. Hein. Pour vous aider un petit peu, en vous posant la question, j'ai répondu à la question. Alors je n'avais pas vu, subhanallah, comme il y avait la photo là, de la Maktaba, le chat il était éteint. Donc je vais revenir. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, crains Allah où que tu sois seul avec des gens, fais suivre la mauvaise action par la bonne et voilà qu'elle l'efface et comporte-toi bien avec les gens. Barakallahu fikum, mashallah. D'après Ibn Malik, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui à qui il plaît qu'on lui allonge la vie et qu'on augmente sa subsistance, qu'il se comporte bien avec ses parents et qu'il lie ses liens de parenté. Barakallahu fikum, mashallah. Pour se remettre en question et d'éviter d'émettre un jugement. Ahsanti, très bien. Pour se remettre en question et d'éviter de remettre un jugement, ça, c'est une réponse, très bien. Il y a encore d'autres réponses. Assalamu alaikum, qu'on se juge en premier, très bien, c'est ça. Pour qu'on se juge en premier et ça nous permettra d'être plus indulgents et de ne pas se hâter. Barakallahu fikum pour vos réponses, mais oui. Pour d'abord, juge-toi toi-même avant de juger les autres. C'est ça, là. Réponse principale. Alors, papa. Papa, réponse de papa. Assalamu alaikum, le rapport c'est de se juger soi-même avant de juger les autres. Ahsante, exactement. Ou parce que celui qui juge constamment les autres ne se remettra jamais en question. C'est une réponse aussi. C'est une faïda. Car il ne faut pas juger les autres et d'abord se remettre en question. Assalamu alaikum, wa alaikum salam wa rahmatullah. Juger en premier, ça nous permettra d'être plus indulgents Toutes les réponses sont des bonnes réponses, que ce soit chez les frères ou chez les sœurs. On vous remercie pour cette participation. Barakallahu fikoum pour vos réponses qui sont des bonnes réponses. Ça veut dire quoi? Donc j'avais préparé également, après la parole de Omar ibn Khattab, j'avais préparé un dalil qui est de circonstance également. Vous allez voir. Un autre, là c'est un hadith. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. قلت يا رسول الله ما نادى. Alors, il y a quelqu'un qui a demandé au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il lui a demandé, qu'est-ce que la réussite? C'est comment on est sauvé? Comment peut-on être sauvé? Regardez ce que lui a dit, répondu le prophète, sallallahu alayhi wasallam. Il faut que vous sachiez que les deux, aujourd'hui, la parole de Omar ibn Khattab radiallahu anhu, et ici la parole du prophète sallam, je les mentionne dans une introduction, mais c'est directement en rapport, comme vous avez pu le constater. C'est pour ça que j'ai posé la question, pour que les élèves assimilent, comprennent qu'en réalité, il y a un rapport direct avec notre cours. Avant d'entrer dans le cours prochain, inshallah ta'ala, dans le cours prochain, on terminera le kufr. La mécréance, innovation, tout ça, les terminologies. Mais le fait de juger les autres, de donner des faux jugements sur les autres, ça fait partie intégrante de notre cours. C'est pour ça que j'ai fait une introduction à partir de deux textes. Donc le deuxième texte, le prophète, alayhi salam, lui a dit, retiens ta langue, retiens ta langue, et reste chez toi et pleure sur tes péchés. Donc ce hadith a été authentifié. Donc on nous dit que les compagnons du prophète, alayhi salam, avaient un engouement très 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 fort sur le fait qu'ils veillaient beaucoup beaucoup et énormément à ce qui était une cause pour être sauvé dans la dunya et dans l'akhirah, c'est-à-dire dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Il prêtait une grande attention à cela. Donc il demandait beaucoup au messager d'Allah, quelles étaient les causes pour être sauvé et atteindre la réussite dans la vie mondaine et dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les orientait et leur indiquait le chemin de bien et le chemin pour être sauvé. C'est pour ça qu'il y a dans ce hadith, le hadith de Uqbatu ibn Amir, radiallahu anhu, il a dit, j'ai demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, je l'ai questionné sur qu'est-ce qui sauve, comment on peut être sauvé, et quelles sont les causes pour atteindre la félicité dans cette dunya et dans la vie de l'au-delà. Comment je peux atteindre cela pour moi-même? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a répondu, retiens ta langue. Retiens ta langue. Retiens ta langue de dire toutes sortes de mal et ne prononce que le bien. Taïb, reste chez toi. Pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Pour te consacrer à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, retire-toi chez toi au moment des troubles. Au moment des troubles, barakallahu fikoum, retiens ta langue, que ta maison te suffise, et pleure pour tes péchés, rapporté par At-Tirmidhi, authentifié par Al-Albani. Fi baytik anil fitan wa qil ma'nahu arda bima qassama Allahu laka min az-zawja wal-walad wal-rizq. Et également, suffis-toi de ce qu'Allah Ta'ala t'a donné comme risque, comme subsistance, comme femme, comme enfant, comme toit, maison, etc. Hein, etc. de tout ce qui fait partie des biens mondains. Regarde وانظر الى من هو اعلى منك et regarde ceux qui sont plus supérieurs à toi dans la religion. Alors dans la religion, tu dois regarder ceux qui sont supérieurs à toi pour que ça te motive. Et dans la dunya, regarde ceux qui sont en dessous de toi. Ça sera mieux pour toi. Et pleure sur tes péchés, c'est-à-dire regrette tout ce que tu as fait comme désobéissance. Et repens-toi, repens-toi envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ça, c'est cause de réussite. Alors nous, ce qui nous intéresse le plus, bien que dans le hadith tout est intéressant, ce qui nous intéresse le plus, c'est il arrivera une époque à la fin des temps où ce sera mieux de rester chez toi et pleurer sur tes péchés. La première parole du prophète, c'est « Retiens ta langue. Ne porte pas des jugements sur les autres. Occupe-toi de toi-même. Fais le constat de toi-même d'abord. Tu n'as pas le droit de juger les autres de mécréants, d'innovateurs, de ton propre chef initiative. Lui, il est mécréant, lui, il est hisbi, lui, c'est un innovateur, lui, ceci, lui, cela, l'autre, ceci, l'autre, cela. Et à la fin, regardez ces deux textes qu'on vous a mentionnés. Celui qui fait ça, à la fin, il aura contredit, il se sera oublié lui-même. Il va finir par le stratagème du shaitan, par s'oublier lui-même. Et ça, c'est grave. Si tu t'oublies toi-même, tu es tout le temps à force, de toute façon, de casser du sucre sur les autres. Tu vas commencer, ça va être une sorte de punition, hein. Tu vas t'oublier toi-même. Tu vas t'oublier toi-même. Et si tu t'oublies toi-même, eh ben là, on connaît le résultat. On connaît le résultat. Donc, barakallahu fiikum. Ce cours touche à sa fin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant. واستغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وصحبه اجمعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. J'espère qu'il a été enregistré. De le voir par ici, ainsi tout à l'heure. Je crois que je n'ai pas. Ah, si, on a enregistré, alhamdoulilah.